3-0, va voir ailleurs. Rancard au Sénégal, au Brésil, en Pologne.
Attends, là. Tes interviews. On est d'accord qu'elles sont à plus de 100 km.
Bah oui, le Brésil, c'est à plus de 100 km, ouais.
Tu sais que c'est interdit par le gouvernement.
Ouais, et alors?
Tu le fais quand même.
Bah oui, depuis quand t'écoutes ce que dit le gouvernement?
Bonjour Liana, ça va? Salam alaikum, kidrti, kibriti, mzien. Ça va, maintenant ça va. J'avais un peu de peur pendant les premières semaines. J'étais effrayée. Je suis allée voir un psychothérapeute. Il m'a donné des astuces. Il m'a rien donné de médicaments. Non, rien du tout. Il m'a interdit de boire le thé et le café et de manger les viandes rouges. Maintenant, je me porte bien. Ça y est, c'est fini. Un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, on fait le ramadan, on jeûne, on prépare le souper, comme d'habitude. On ne sort pas. Après le maghreb, après qu'on mange, autrefois, on sort, tout le monde sort, on fait des visites chez les amis, chez les proches. Les gens vont aux mosquées, mais maintenant, après le souper, c'est interdit de sortir. Personne ne sort de chez soi. Personne. Absolument personne. Et voilà, c'est ça, le confinement et le ramadan. On est à la maison, on est emprisonné chez nous, c'est tout. Voilà.
Maintenant, vous allez entendre des nouvelles de Colombie, des camarades liberadores du peuple Nasa, qui font partie du mouvement de la libération de la Madre Tierra. Ce sont des communautés autochtones, dans une région semi-autonome, qui tentent de récupérer les terres occupées par les grands industriels de la canne à sucre. En ces temps de pandémie, la répression de l'État s'est renforcée. Bonne écoute.
Saludo a las hermanas y hermanos.
Salut à nos frères et sœurs et aux collectifs qui luttent dans le monde. Nous parlons depuis le processus de libération de la terre-mère dans le nord du Cauca en Colombie. Nous sommes des familles du peuple Nasa, en lutte permanente depuis 5 ans contre la monoculture de canne à sucre, qui s'étend sur 330 000 hectares dans la vallée du fleuve Cauca. Cette lutte, nous la menons en suivant les traces de nos grands-pères et grands-mères qui ont lutté depuis des siècles pour récupérer nos terres. Jusqu'à présent, en tant que lutte de libération de la terre-mère, nous avons occupé 12 exploitations de canne à sucre, qui représentent 4000 hectares, et nous nous y sommes installés pour y vivre. C'est ainsi que nous libérons la terre, asservie par la production capitaliste de canne à sucre qui détruit les forêts, déplace les animaux sauvages et contribue au réchauffement climatique. Notre travail consiste à faucher la canne à sucre et semer des aliments. Maïs, manioc, haricots, et élever des vaches, des canards, des poules. En 5 ans, ils n'ont jamais réussi à nous expulser des propriétés, malgré les 320 tentatives d'opérations militaires et policières, qui sont le résultat de plans économiques menés par l'État colombien et les propriétaires des champs de canne à sucre, les personnes les plus puissantes de Colombie. Depuis le 25 mars, étant donné la situation de pandémie mondiale, le gouvernement colombien a imposé le confinement dans tout le pays. Il nous somme de rester chez nous. Mais ce que nous observons, c'est que pendant que les plus pauvres meurent de faim à leur grande indifférence, l'industrie de la canne à sucre et les grandes entreprises du pays continuent de fonctionner comme si de rien n'était.
Eux, ils continuent leur routine habituelle. Alors, pourquoi les travailleurs continuent à travailler ? Pourquoi les multinationales continuent à faire travailler leurs employés ?
Ce que nous observons, c'est que le monstre capitaliste profite de cette crise sanitaire pour faire taire les luttes et continuer ses projets destructeurs.
Souvent, la police anti-émeute et l'État ne sont pas capables d'arrêter autant de luttes. Avec cette maladie, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Que les gens restent tranquilles, qu'on ne bouge pas, parce qu'ils voient bien que c'est une manière d'arrêter les gens. Avec toute la police et tout ce qu'ils ont, ils n'ont pas réussi à arrêter les luttes.
Ici, sur notre territoire, ils ont profité de cette crise pour augmenter les attaques ciblées contre notre mouvement. Attaques portées par la corporation Asocaña, le gouvernement colombien, colombien et l'industriel Incauca, l'entreprise de production de sucre et d'agrocarburants qui s'est appropriée une grande partie de nos terres. Pendant le mois d'avril, les affrontements entre les dissidents de la guérilla et l'armée se sont intensifiés sur les propriétés que nous sommes en train de libérer. Les travailleurs de l'industrie Incauca détruisent nos cultures et cassent les clôtures des pâturages de nos vaches.
J'ai emmené les vaches dans un enclos qu'on avait construit ces jours-ci. Et les clôtures avaient été enlevées. Ils ont tout coupé et tout emporté. Et en passant, je suis allée voir le potager, une bananeraie que j'avais par là-bas, avec 100 bananiers. Ils étaient tous jaunis. Alors j'ai commencé à élaguer, et là, j'ai vu qu'ils avaient été aspergés de produits. Le seul apport du gouvernement, c'est de détruire ce que nous cultivons. Mais c'est de ça qu'on vit, qu'on survit. Pour nos enfants, pour nous, pour tout le monde. C'est de ce que nous cultivons. Parce que le gouvernement a tout rempli de canne à sucre. Mais nous, on n'a pas d'entreprise, rien. On dit que grâce à ce qu'on cultive dans la terre, comme le manioc, la banane plantain, en gros tout ce qu'on envoie en ville. En ce moment, avec cette situation, même les gens de la ville meurent de faim. Et pourtant, ils détruisent nos cultures. Alors de quoi on va survivre ?
Les industriels de la canne à sucre offrent des récompenses alléchantes pour l'assassinat de Liberadores de la Madre Tierra. Le plus triste dans cette histoire, c'est que le 25 avril, 16 vaches ont été massacrées sous les ordres de l'industriel de la canne à sucre. Les vaches sont mortes après avoir ingéré un poison pulvérisé dans les pâturages par les travailleurs au service d'Incauca.
Ce sont des sortes de boules de poison qu'ils ont jetées. Bien sûr, toutes les vaches étaient là, en train de manger, alors elles ont toutes été empoisonnées. On a réussi à en sauver certaines, mais on ne sait pas si elles vont survivre.
Sur cette même propriété, les jours suivants, des liberadores occupés à leurs tâches quotidiennes ont été attaqués par armes à feu par les forces de l'ordre et l'armée. Le 26 avril, un groupe armé a attaqué une exploitation de canne à sucre et a assassiné son administrateur. Les médias ont communiqué immédiatement et sans hésitation que la libération de la terre-mère était responsable de l'attentat et de l'assassinat. Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une stratégie d'Incauca, d'Asocaña et du gouvernement pour démanteler notre mouvement. Et au milieu de ce plan, il nous lance une offre de négociation que nous avons refusée. La libération de la terre-mère ne cherche pas à négocier avec l'État, parce que l'État n'a jamais respecté aucun accord. Il y a déjà eu 1200 accords signés avec le mouvement autochtone, et aucun n'a été respecté. En tant que mouvement de libération de la terre-mère, nous répondons à ces attaques en organisant la troisième marche des aliments. Nous avons rempli un camion avec des aliments récoltés sur nos terres en cours de libération et sur les terres récupérées il y a quelques décennies par notre communauté. Et nous sommes allés les distribuer à Cali, dans le distrito de Agua Blanca, un quartier appauvri et délaissé par l'État, qui réunit de nombreuses luttes populaires. Là-bas, plusieurs collectifs ont récupéré les aliments et les ont distribués aux familles qui vivent des difficultés économiques en ces temps de confinement.
Je vous salue de la part des camarades Massa, qui depuis 5 ans sont dans un processus de libération de manière directe contre le système. On fauche la canne à sucre pour semer de quoi manger. Avec tous les efforts, la lutte, les poursuites des camarades assassinés, poursuivis en justice, menacés. Ces aliments, une partie vient des propriétés que nous sommes en train de libérer, où il y a eu plus de 300 tentatives d'expulsion qui ont détruit nos champs. Avec le peu qui reste, qu'ils nous ont laissé, on a réussi à venir pour le partager avec les communautés dans les quartiers ici à Cali.
Que viva la marcha de la comida! Que viva!
C'est notre manière de dire à l'État et aux puissants que nous ne luttons pas uniquement pour nous, mais pour tout le monde et tous les êtres. Alors qu'ils nous attaquent et nous acculent, on les esquive et on apporte de la nourriture là où l'État est toujours absent. Alors qu'ils obligent les gens à rester tranquilles à la maison et mourir de faim, en tant que libération de la terre-mère, on cherche des solutions collectives pour prendre soin les uns des autres et on s'organise entre luttes populaires.
Alors qu'ils ont tout essayé contre nous, disons que c'est ça l'exemple qu'on envoie à l'État.
Alors qu'ils ont voulu détruire toutes nos cultures sur les terres occupées, on leur montre que le peu qu'ils nous ont laissé, on le distribue.
Alors qu'ils poursuivent leur plan de destruction de la vie, on continue à libérer la terre pour que la forêt repousse, que l'eau et les animaux reviennent, que l'on puisse à nouveau vivre savoureusement, ce qu'on appelle aussi « buen vivir » et que dans notre langue on appelle
« Ellos creen que es que por el hecho de que sacan una enfermedad entonces van a parar acá. No, yo creo que acá, pues nosotros estamos acá y yo creo que acá las cosas son distintas.
No, 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 nosotros vamos a siempre estar en pie. Nosotros vamos a seguir para adelante, lo que hagan, lo sacan. Si destruyen nos recortes, o hasta nos maten, pero nosotros estamos determinados. Nosotros estamos con pie adelante, no para atrás.
Desde el proceso de liberación de la madre tierra,
du processus de la libération de la terre-mère, communiqué par l'équipe de Vamos al Corte et la Minga de Comunicación pour la libération de la terre-mère.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Proceso de liberación de la madre tierra.
Hey, mais toi, on ne te voit pas, mais on parle que de toi. Tu es devenu une star, hein. Attends, maintenant. Écoute et regarde. Notre quotidien.
Corona, corona.
Corona, corona. Corona, corona. Corona, corona. Corona, corona. Corona, 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 corona,
corona, corona,
corona, corona,
corona, corona, corona, corona,
corona, corona, corona, corona,
corona, corona, corona, corona,
Corona, yeah. Man, I'm a jackal. Kem mula la wax bi mo am wala le mo am. Kem xamul luñu wara def.
Corona, corona. Corona, corona. Corona, corona.
No rent, no school, no 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, V, I, R, U, S. We will fight you, we will crush you, we will wake you run away to where you come from. You're the greatest mean, mean, Mr. Mino. What a handicap you brought to us. You are a bad, bad devil. Please go away.
Imagine-toi que moi je te connais pas. Imagine-toi que c'est un journaliste qui vient te voir pour dire ah tiens tu as ça, c'est pour ça que je te dis ça.
On parle de problème là et pour Oran. Y a pas de demi-mesure ici. On va parler de on parle.
Déjà si vous voulez vous présenter quoi.
Je m'appelle Horace Bowen et tous les amis, les potes m'appellent Ola. Je suis de Sierra Leone. Et je suis au Sénégal à ce moment et je fais 40 ans depuis. Au Sénégal.
C'est pas maintenant, c'est depuis.
On commence, c'est pas grave.
C'est bien. Bon,
laisse-moi pour le truc.
On discute, hein, il faut se blaguer, on va se faire des piquets. Hein.
Il est regarde comment il est sérieux.
Ok, well, je suis au Sénégal pour un bon moment et puis je me suis marié à une femme sénégalaise et on a des gosses, et des grands gosses. Et ma fille est 26 ans et mon fils est 23 ans.
Oui, non, moi je vais parler, lui.
Je ne sais pas
comment ça. Il faut parler, oui. Oui,
dans les lois. Ok. Moi, je me présente, je m'appelle Tierno Di Serigne Paye.
J'ai fait mes études au conservatoire et j'ai eu mes diplômes de piano, de solfège. Et après, j'ai commencé à faire le piano-bar dans les hôtels. J'ai joué un peu à l'Orchestre National et d'autres orchestres de variété, quoi. Et maintenant, j'ai commencé à donner des cours au conservatoire et en même temps à la base française, quoi. Mais avec le corona, tu sais, la base est fermée.
Tu sais la base militaire.
Oui, tu sais que les Touaregs ont peur.
Donc, il n'y a personne qui rentre.
Ils ont fermé carrément la porte. Donc, personne ne peut rentrer là-bas. Donc,
est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va tous tomber dedans? On ne sait pas, parce que les gens ne font que mentir. Moi, je me présente Sanou Diouf, saxophoniste, flûtiste. Mais déjà, je n'ai même pas la tête avec moi. Parce que si tu as une famille que tu nourris, et ça fait un peu 2 mois, bon, c'est le confinement, donc il n'y a pas d'action. Et nous, quand il n'y a pas d'action, on ne gagne pas. Et les gens font de nous, qu'est-ce qu'ils en veulent?
On a l'habitude de jouer un peu partout, ça dépend de la boîte qu'on joue, et dans certains restaurants aussi. Mais le truc, c'est quoi? Depuis le corona, comme normal, stop, les restaurants ouvrent plus, et puis tout le monde est à quarantaine. Et pour la santé du monde, je crois que c'est normal pour être en quarantaine, mais qu'est-ce qui est derrière et qui occupe de nous maintenant? Le président de la République a dit qu'il va donner certaines sommes aux différents départements, mais nous les musiciens, rien. Et c'est dommage. Et aussi, le problème du corona, on sait que c'est un problème de santé, c'est très important pour être en quarantaine, mais qui occupe de nous? On est à plat, tu vois. Il n'y a rien qui tourne. On n'a même pas de transport pour rentrer à la maison après le studio. On est là. Même les loyers pour payer, on est en train de penser comment on va faire, où on va aller. Et heureusement, peut-être il y a un ou deux amis qui nous aident, mais ils ne peuvent pas nous aider tout le temps. Donc tout ça crée une autre dimension, une autre façon de penser, ça dévie, toute ta vie est changée, et puis, ouais, je ne sais pas, on souhaite, on prie à Dieu, peut-être un jour il va descendre, il va nous décoiffer, parce que vraiment, on ne sait plus comment penser, c'est comme ça.
Et c'est lui qui va nous dire. Quoi faire, c'est pas vrai, Bobo.
Ah, mais
c'est nous-mêmes, si on se bat pas, on va nous piétiner.
Ouais, mais si, c'est
y a pas Dieu, il est là pour tout le monde.
Ça, on sait, c'est pour rigoler.
Non, pour rigoler. On rigole pas. Là, on n'est pas en train de rigoler. Mais, là, on est en train de voir où est-ce qu'on va aller.
Mais
si on attend Dieu qui va venir nous aider,
mais ça va
pas, non? Moi, je parle de Dieu parce que c'est lui qui fait tout ça. Mais c'est à nous de nous démarquer de ces gars-là. Et mettre notre concept.
C'est lui seulement qui peut faire les choses.
Non. Moi, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit dans l'action.
Parce qu'à ce moment, on est handicapé.
La faute est à qui?
Justement, je parle...
Non, je te pose une question, la faute est à qui?
Je parle de qui a la faute.
C'est qui?
C'est ça pourquoi j'ai...
Mais tu n'as jamais dit qui est la faute?
Les gens qui nous gèrent.
Qui nous gère? C'est de ça que je te parle. Il faut qu'on oublie ces gens qui nous gèrent, parce que depuis qu'on est là, ils n'ont rien foutu. Ces gens-là vont...
La solution,
c'est d'en parler comme on est en train de faire et de dire qu'est-ce qui se passe réellement. Ah,
justement, c'est ça que je dis.
C'est pas de les caresser là.
Bon, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que la vie est en deux côtés. C'est-à-dire tu as peur, en même temps, tu dois nourrir la famille. Voilà. C'est pas facile du tout. Et depuis lors, on a problème de loyer, problème de plein de choses.
Je pense même plus à l'État. Parce que c'est faux, c'est pas vrai. 35 ans, tu es là, tu travailles, tu bosses comme un esclave. On ne te donne pas le retour. C'est-à-dire que tu as problème, c'est toi-même qui vas aller le régler. Heureusement qu'étant artiste, tu as des copains dans plein de trucs. C'est eux qui t'aident. Il faut parler pour que les choses... Parce qu'au Sénégal, d'ailleurs, le ministre, il n'a pas parlé aux musiciens, il ne pouvait même pas savoir qu'est-ce que les musiciens sont devenus, ils vivent comment. Parce qu'un gars qui vit au jour le jour, pour un mois s'il tient, c'est qu'il y a eu des gens qui l'ont qui se soutient, quoi. Mais si c'était pas ça, on allait crever.
C'est dur, on est là, on attend. C'est vachement dur. Rien ne marche, on ne nous gère pas correctement.
Mais je peux te parler un peu. Tu sais pourquoi on est comme ça, hein? Parce que l'État n'a rien foutu. C'est un zigzag qui est venu par surprise. Donc ils ne peuvent rien faire, on n'a pas les moyens. Il ne faut pas se cacher les yeux. Le truc là pour surveiller les gens qui vont, mais il faut du personnel. Si tu n'as pas le personnel, tu ne peux pas surveiller tout le Sénégal. Et ils ont ce problème-là. Il n'y a pas de personnel, on fait croire aux gens que oui, on est là. Or que même en couvre-feu, tu vois des gens qui sortent pour aller chez un boutiquier qu'ils comprennent, ils lui téléphonent, oui, boy, je veux ta, ils rentrent dans la truc, on le voit, et puis ils rentrent chez lui. Il y a plein d'astuces que les gens font. Mais ils sont obligés, lui le boutiquier, il est obligé de faire comme ça pour gagner de l'argent. Les gens aussi, ils ont besoin de thé, cigarettes ou bien un truc. Parce que là, on nous confine et on n'a rien prévu. Moi, j'aime pas la façon qu'on fait pour donner du riz là. Comme si on était en 1929. 29, je dis bien. Il y avait au Sénégal des trucs alimentaires.
Il y avait c'était la fièvre jaune ou la peste?
La peste.
La peste, ok.
Et c'est des problèmes quotidiens. Qu'on rentre. Tu es avec tes enfants, tu te réveilles, tu dois acheter un pain comme ça. Mais rien n'est dans ta poche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir le boutiquier. Une fois ça marche. Deux fois ça marche. Trois fois il te dit, mon grand, tu sais. Et on est confiné. Nous-mêmes, on parle de moitié confiné, mais il n'y a pas d'activité pour les musiciens, pour la musique.
Au secours, au secours.
Regarde-moi. Au secours. Au secours, tu verras personne comme ça, au secours, comme ça, dans le micro. Au secours, ils s'en foutent. Boy, tu rigoles avec notre vie, boy.
Ouais, ta vie est partie.
Notre avenir. Comment tu peux dire qu'on ne peut rien faire? Moi, c'est ça que je n'accepte pas.
Parce qu'on n'est pas organisé.
Tu sais, c'est pas vrai. On fait tout pour nous désorganiser. On n'a même pas le temps de s'organiser.
Oui, mais
il y a des gens qui, soi-disant, s'occupent de nous. Oui, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent? Rien du tout. Ils font des réunions.
Help!
Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Tu sais, cette chose-là, pour que ça change, c'est nous-mêmes. On ne sait pas comment ça va se régler, mais le fait d'en parler, mais c'est ça le problème. Il faut en parler.
C'est ça pourquoi j'ai dit au secours.
Que le président le ministre les Tchomseko les Yusunduro, qu'ils entendent qu'il y a des gens qui parlent réellement qu'est-ce qui se passe. Parce que eux, c'est des colorants. Tout le temps, ils ne font que colorer. Et moi, je ne les écoute pas, je ne les suis pas. Moi, je parle de la base là qui est là, qui souffre chaque jour. Jour pour jour. C'est tout, quoi. Il faut en parler. On n'a pas les moyens. Mais la langue, là.
Et est-ce que les privés, par exemple, les gens à qui tu donnes des cours, tu trouves qu'ils prennent leurs responsabilités?
Oui, il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns, c'est pas tout le monde. Parce que je vois un gars, ah, vraiment, il est gentil. Il te dit non. Reste chez toi. Lui aussi, peut-être il a peur de la maladie, parce qu'à cause de l'âge, quoi.
Mais est-ce qu'il te paye encore?
Oui.
Il continue à te payer.
Donc, il te dit que je suis parti tout récemment, donc il totalise un peu les mois, donc même si c'est pas... Mais c'est encore mieux, quoi. Donc, il te le donne. Donc, voilà.
Est-ce qu'on peut redire aux gens qui nous écoutent que l'État sénégalais a encouragé ou en tout cas a obligé les entreprises qui avaient du personnel à ne pas les licencier pendant cette période, et que c'était comme ça qu'ils pourraient aider les entreprises. Si les entreprises ne gardaient pas ces employés, ils ne les aideraient pas après. Et je me demande, pour vous qui êtes souvent sans contrat et tout ça, comment finalement les gens ne continuent pas à vous payer.
Non. Tu sais que il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés.
Ça veut dire qu'on n'a rien fait pour les musiciens. Rien du tout, parce qu'il n'y a aucune structure. Il y a la SODAV, mais la SODAV, bon, ça vient de naître, donc ça
c'est fait aucun d'auteur. Effet.
Donc, moi, vraiment, on est on est complètement de l'autre côté. On ne sait même pas quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que si, c'est des choses, c'est des engagements qu'on devait prendre avant ce problème-là. C'est-à-dire le statut des artistes, pour jouer quelque part le contrat d'un artiste, comme ça se fait un peu partout, en France, aux États-Unis et en Angleterre. Je ne veux pas dire de mettre la même chose. On va faire les choses selon notre réalité, ici, petit à petit, mais si on travaille, ça pourrait devenir quelque chose. Mais là, vraiment, on est dans la dèche et ça ne marche pas du tout. On nous confine, on ne gagne plus d'argent et il n'y a plus de boulot. Et s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, rien ne bouge. Moi, j'avais un peu d'argent que j'avais gardé, heureusement, parce que moi, on a un boulot aléatoire depuis 20 ans, plus même. Mais il faut que toi, tu sois ton banquier, tu t'organises, tu dois sortir. Et c'est comme ça que je fais. Mais quelquefois, je prends dans qu'est-ce que j'ai pour donner à des amis qui n'ont pas pour acheter. Si on ne les aide pas, qui va les aider? Qui? Hein? Donc moi, je suis déçu, vraiment déçu. Et il faut que ça change. Ça, c'est dégueulasse. Il faut reprendre tout. Il faut mettre la pendule à l'heure dans tous les secteurs. Mais cette fois-ci, après 60 ans, mais 60 ans, tu sais, pour même le fait de donner du riz, c'est de la politique. Je ne suis pas d'accord. Parce que tu vas leur donner un sac de riz pour une famille de 5 personnes ou 10 personnes, mais ça ne fait pas un mois, c'est fini.
25
et quand tu disais déjà le riz là, mais après, qu'est-ce qui va se passer? C'est là-bas qui va être dangereux parce qu'on est en train de faire des gestes sans comprendre pourquoi on fait ces gestes. Mais je crois que là, je parle même pour le monde entier, la pendule est à zéro. Il ne faut pas qu'on essaie de nous... On essaie de nous jouer un tour qu'on ne comprend pas. Que c'est ça. Rien n'est plus comme avant et rien ne sera plus comme avant. Il faut que beaucoup de pays africains qu'ils puissent cultiver qu'est-ce qu'on mange, avoir de petites industries qu'on soutient de petit à petit, on peut devenir un pays.
On peut redire aux gens qui nous écoutent que pour la plupart d'entre vous, vous êtes nés avant l'indépendance.
Quand même.
Et vous avez vu l'évolution de ce pays, de l'Afrique de l'Ouest.
Avant l'indépendance, après l'indépendance, on avait des gens qui en avaient confiance, qui vous occupent de nous.
Oui, mais parle de la chose du carestro.
Quand il y a des années, mais attention.
Parle de la chose. Moi, je vais carrément dedans.
Mais je peux
je
pas.
Je mets le doigt.
Je suis.
Fille-moi, il met tes filles. C'est là qu'il fait mal. Donc, il faut. Oui. Après 60 ans d'indépendance, c'est comme si on est en 1929. On nous parle de trucs alimentaires. On va nous donner du riz. On n'a pas besoin de riz. On a besoin de structures pour vraiment nous faire une ouverture. Et que si cette ouverture-là est effective, mais on n'aura besoin de personne. Parce qu'on va gagner normalement notre argent, on va s'organiser normalement. Et là, ça peut ouvrir pour d'autres gens. Mais là, bon, on est dans le qui-vive, je ne mange pas mes mots. Et tout ça, c'est la faute de l'État. Et ça, je le dis aussi aux Africains, ils aiment tellement gérer, maintenant on est indépendant. Parce qu'après l'indépendance, qu'est-ce qui a amené le problème? C'est ça, maintenant c'est nous qui gérons. C'est pas vrai. On n'a jamais rien géré. Parce qu'on te donne de l'argent et puis tu veux regarder à gauche. Non, ne regarde pas à gauche, c'est à droite qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut changer. Qu'on prenne nos responsabilités, qu'on pense pour nous, comme font tous les peuples du monde. Chacun pense pour lui. Mais après, on peut s'ouvrir sur d'autres héros. Mais attendre toujours que l'autre te donne. Ça va amener ces situations de...
Mais maintenant, quand tu as, maintenant tu t'occupes de personne.
Ouais.
Ah non. L'Afrique, il doit changer. Il faut, ici au Sénégal, il faut avoir une autonomie pour la justice. Tant qu'il n'y a pas ça, notre justice n'a pas de d'indépendance. Il faut qu'on essaie de trouver
Help,
ça.
Au secours. Oui,
non, non, il est en train de vous foutre dedans. Ne l'écoutez pas, il est en train de zigzaguer là.
En tout cas, on a besoin de secours.
Quand même.
Donc,
ouais.
Moi, je suis pas un révolutionniste.
Oh.
Je suis un musicien.
On parle pas de révolution. On parle de nos droits, man.
Mais avant ça,
arrête de dire je suis pas révolutionnaire.
Il faut révolte.
Il y a pas de révolution. On parle simplement de nos droits.
Il faut révolte.
C'est le droit là.
Oui.
Même l'enfant, il doit parler de son droit simplement. Boy, c'est à 60 ans qu'on va parler d'avant l'indépendance et on dit on veut émerger là.
Non, on bouge pas.
Donc depuis, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça que tu es en train de me dire.
Qu'est-ce que j'ai en train de te dire? Mm-hmm. On sait qu'est-ce qui passe, mon père, rien fait.
Ah, mais...
Help!
Tiens, on écoute pas un peu.
mais c'est là-bas que j'entends.
Attention.
Avec le corona, on est dans la merde à ce moment. Ok, qu'est-ce qui doit venir à nous n'est pas encore arrivé. Mais après le corona, je pense que, et combien économiquement, je crois que nous, on est foutus encore plus. Down, on va descendre plus bas. Ça, bon, je le sens. Je le sens. Franchement, je le sens. Ça va être difficile pour nous. Parce que déjà là, que tout va bien. Les banques mondiales donnent combien de milliards? On ne voit pas. Donc après le corona, si l'économie est tombée, pour que ça monte, c'est fini. On est foutu. Soit disant le nouvel ordre mondial. C'est rigolo ça. On souhaite que ça va changer. Il faut Dieu aide notre chef d'État pour réfléchir mieux.
Arrête ça, ouais. Arrête. Non, non, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est Dieu qui va aider notre... ces truands-là. Ils sont en train même de nous truander, on est au courant. Le truc du riz que tu as... C'est un deal. Il faut oser dire les choses. C'est pas ces gens-là qui vont nous aider, Ola.
Non.
Et Dieu, même si ça va nous aider, ça va nous donner une certaine chance, mais qu'on agit. Là, ça peut marcher. Mais Dieu va nous aider. Et pour bien, ils vont... S'ils aident ces gens-là, c'est qu'on est mort. Oui, il faut dire les choses qu'on doit dire. Il n'y a pas de caresser. Kumonol baolo, luyakuyaola. Somonol, tu ne peux pas. Et tu veux continuer. Tu ne sais pas que tu ne peux pas et tu continues. Mais tout ce qui garde, on ne peut pas le demander à un autre.
C'est toi la responsabilité.
Kumonol baolo, luyakuyaola.
Ok, merci beaucoup l'équipe. C'est comment votre nom de groupe?
Epukai, se soulager. C'est quand il fait chaud là, surtout chez nous là, vers 40 degrés, tu tiens ton boucaille en
Bras zéro, va voir ailleurs.
Elle me fait plus autant en casa. Cuide-se. Proteja-se. Tempos difíceis. A Organização Mundial de Saúde avisou. Fizeram pouco caso, chefe de estado minimizou. Demorou. Perderam tempo com coisa que não me interessa. Quem tem noção do vírus tá com medo, tá com pressa. Sei, incompetência vem na frente sim. Se dependesse deles a epidemia não teria fim. Presos na inércia, é cada um por si, a cena é essa. O fim de tudo para alguns é quando tudo começa. Sei, com povo gado é mais fácil levar de lambuja. Lavaram as mãos, mas a boca continua suja. Alguém avisa pra esses caras que a gripe é mundial e a cada dia o número de infectados dispara. As ruas estão vazias, assim que tem que ser. Marcar uma temporada em casa se quiser viver. Só sair em situações especiais pra comprar itens considerados essenciais na favela. Pra nós a Covid é diferente. As casas não são grandes, geralmente muita gente. Aglomeração inevitável. Alguns lugares ainda não tem água potável. Se cuida aí. que vai faltar espaço na UTI. Se a gente não fizer o certo pra se prevenir, lavando bem as mãos, evitando toque na mucosa, o bagulho é sério, não tem cura milagrosa. Pois bem, não tem plano de contingência. Alguns vão se contaminar por conta dessa negligência, outros vão pegar por conta da ignorância. Liderança que se perde se acha na arrogância. Se ligou com o corona, deixa de lona, o estrago veio à tona. O mal contamina, cada esquina é mais sério do que se imagina. Só faz a sua parte que eu faço a minha. Não pense que é só uma gripezinha. A guerra é muito grande pra uma mente tão pequena. O mundo tá parado e a gente tá de quarentena. O cuidado é nosso para não pagar com a vida. Covarde do Covid, o capiroto te convida. Suba a máscara, caiu. 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 Caiu a suba a máscara, caiu. Caiu. Caiu.
Depuis le début de cette crise sanitaire, on essaye de se renseigner un petit peu à droite à gauche pour savoir un petit peu quelles sont les conséquences de cette crise-là sur les réalités en termes de vie quotidienne, de santé, d'économie, de relations sociales que ça provoque. Au Brésil, il y a un président qui nie le fait qu'il y ait une pandémie et que ce virus puisse être dangereux et qui donc continue à participer à des salons économiques internationaux pour inviter les entreprises à investir dans son pays. La déforestation continue plus que jamais avec des taux records de déforestation dans les premiers mois de 2020. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus parmi les populations autochtones triple tous les 5 jours. Donc c'est encore une autre réalité qui se vit au Brésil. Et puis, vu que l'État fédéral nie l'existence de cette pandémie, c'est les collectifs autogérés, les associations, etc., qui doivent mettre en place des campagnes d'entraide pour que, entre classes populaires, on s'entraide et on puisse bouffer quand même en évitant de trop s'exposer au virus. Et du coup, on a fait un entretien, une discussion avec un copain brésilien qui nous parle un petit peu de tout ça et de dans quelle mesure la crise actuelle accentue les inégalités de classe, de race et de genre dans le pays, qui sont déjà énormes et favorisées par le gouvernement de Bolsonaro. Voilà, du coup, on écoute un témoignage d'un copain brésilien.
Pour répondre aux questions de manière synthétique, quelle est la situation, comment je résumerais la situation au Brésil ? La situation sanitaire, elle est très mauvaise dans l'ensemble. On a un gouvernement qui stimule, en tout cas qui encourage la haine de classe, la haine entre les races, et qui a une politique vraiment très mauvaise dans tous les aspects économiques, politiques, sociales, sanitaires. C'est-à-dire, on a des quartiers riches et des quartiers pauvres. Des quartiers riches où on a accès à des soins, il y a des hôpitaux de proximité. Et des quartiers pauvres qu'au contraire sont très isolés, de plus en plus isolés, donc dans ce confinement. Et juste pour reprendre ce qu'il disait le rappeur MV Bill, c'est un isolement qui ne date pas du coronavirus, il date de bien avant, puisqu'il y a une politique d'isolement des classes populaires depuis très longtemps au Brésil, et ça ne fait que s'accentuer avec cette pandémie. Tu me posais la question ensuite des résistances qui s'organisent au coronavirus. Il y a vraiment, ou même à la pandémie, ou au confinement, là c'est encore un problème très complexe au Brésil, puisque le gouvernement même nie l'importance de cette épidémie et fait de son possible pour arrêter le confinement. Donc ça, c'est depuis le début de l'épidémie, le gouvernement milite pour qu'il n'y ait pas de confinement. Donc la résistance, finalement, vient de la part de ceux qui organisent le confinement. Ça amène à la troisième question. Qu'est-ce que veut Bolsonaro ? Mais on ne sait pas trop. On ne sait vraiment pas ce que veut Bolsonaro. Bolsonaro, il veut que l'économie reprenne, c'est sûr. Il veut que ses partenaires économiques s'enrichissent. Il veut que les patrons qui l'ont appuyé pendant sa campagne, qui continuent à l'appuyer, s'enrichissent encore et veut donc promouvoir des outils pour permettre des licenciements faciles, pour permettre une négociation des salaires pendant cette épidémie, donc des salaires à la baisse évidemment. Et il veut donc flexibiliser encore plus l'économie pour, grâce à cette flexibilisation, faire face à l'épidémie. Donc il pense que les solutions économiques peuvent permettre au Brésil, ou en tout cas à la population brésilienne, de faire face à cette crise sanitaire. Il a tort, évidemment. Dans ce cadre de lutte contre le confinement, les limogés sont ministres de la Santé. Pour placer à la tête de ce ministère clé du combat au coronavirus, un médecin qui est aussi entrepreneur et qui a fait fortune. Donc voilà comment se passe ce cadre général politique. Plus précisément, ce qu'on peut dire, c'est vu que la réponse du gouvernement à la crise épidémique, c'est la flexibilisation de l'économie, il y a eu une série de manifestations, une série de protestations, manifestations de routiers qui s'opposent tout simplement à la politique de licenciement. Des personnes qui font aussi grève et qui se manifestent dans le cadre de cette lutte, c'est le personnel hospitalier, dont un certain nombre, et surtout les internes, n'ont pas reçu de paye, ou en tout cas une paye complète, et qui menacent de faire grève aussi, surtout dans cette situation où le système de santé est en échec, ça pose un gros problème. Une autre catégorie sociale qui est en manifestation, ce sont les croque-morts, qui finalement se manifestent parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire pour faire face à la crise, pour enterrer les morts en respectant le minimum des mesures de protection sanitaire. Donc au Brésil, il manque des masques, et les gens essayent aussi de faire des masques de fortune. Ils vendent des masques dans les feux rouges, comme ils vendaient avant des bonbons. Et ce sont des masques qui ont une efficacité tout à fait limitée, mais c'est mieux que rien. Donc cette crise du coronavirus, donc de l'épidémie et du confinement, comme en France aussi, ça provoque une augmentation très importante de la violence conjugale. Et c'est un gros problème, puisqu'on a pu récemment dire que ça a augmenté de presque 50% le nombre d'appels de femmes pour dénoncer, ou en tout cas pour, peut-être pas dénoncer, mais pour demander de l'aide dans le cas d'une agression de leur mari, de leur conjoint. Donc c'est une augmentation très importante. Et il y a aussi les mêmes statistiques qui montrent que le nombre de féminicides par rapport à la même période, c'est-à-dire 2019, a augmenté de presque 50% lui aussi. Donc le confinement augmente les féminicides, augmente la violence contre les femmes, la violence contre les enfants. Et on peut dire que le coronavirus va aussi augmenter la division entre les genres, puisque 70% des personnels de santé sont femmes qui sont exposées à un risque d'infection plus grand que les hommes. Donc c'est vraiment une situation extrêmement complexe. Puis si on revient au quartier populaire, là aussi on a un autre problème, qui est celui du manque d'organisation totale de la part des pouvoirs publics qui délaissent encore une fois ces quartiers. Ce sont des quartiers où les personnes vivent dans des habitations de taille très modeste, où ils partagent à 4, 5, 6 des superficies de 20, 30, 40 mètres carrés, dans des conditions sanitaires limites, c'est-à-dire pas d'accès à l'eau potable, souvent pas d'accès à l'électricité, donc ils ont des gros besoins. Et puis une population qui ne sait pas en qui croire, entre le gouvernement qui nie l'importance de l'épidémie et qui leur demande d'aller travailler, et des associations qui se forment à l'initiative des partis politiques comme le Parti des travailleurs, par exemple, mais pas seulement, à l'initiative d'associations, de collectifs, et des citoyens, on peut dire la société civile, si on veut, hein, utiliser un gros mot, et qui vont s'organiser pour permettre à ces personnes de prendre conscience du risque qu'ils encourent en allant travailler, et aussi qui sont là pour organiser des dons. Des dons en argent évidemment, mais aussi des dons d'aliments, des kits pour des kits sanitaires pour pouvoir se laver les mains avec du savon, utiliser du shampoing et vraiment pour essayer d'organiser une hygiène de base pour permettre de lutter contre l'épidémie. Ces collectifs qui se forment, donc ils résistent pour organiser le confinement dans un pays qui nie l'importance de l'épidémie. Donc pour organiser le confinement, ils ont créé une cartographie du coronavirus dans les favelas, mais pas qu'à Rio, dans tout le Brésil. Cette cartographie a très bien marché, puisqu'on s'était rendu compte qu'il y avait des cas de coronavirus dans les favelas d'Amaré, un complexe d'Amaré, des quartiers très modestes de Rio. Et ils ont décidé donc de s'organiser pour identifier ces malades, pour venir en aide aux familles, pour organiser le confinement, pour identifier les morts, et organiser des funérailles. Parce que là aussi, il y a un gros problème au niveau du Brésil, qui est le même problème qu'on a partout quand il y a un trop grand nombre de morts, c'est qu'on ne sait pas où les enterrer, ni comment les enterrer. Mais ce problème s'aggrave encore plus au Brésil, puisqu'on ne teste pas tout le monde, on ne teste pas les morts, pas tous les morts en tout cas. Donc il y a des gens qui meurent chez eux, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont morts par des milliers. On ne sait pas trop quel est le chiffre exact, on ne le saura peut-être jamais réellement quel est le chiffre exact de morts du coronavirus au Brésil. En tout cas, on sait qu'il y a un nombre de morts qui est plus important qu'avant. Donc c'est en grosso modo la situation au Brésil qui est vraiment calamiteuse. Donc l'Union, c'est-à-dire Bolsonaro, le président de la République, est contre l'arrêt, le confinement, et les États s'organisent pour promouvoir ce confinement. Donc il y a vraiment une lutte, une résistance de la part des États, des gouverneurs, contre cette attitude négationniste de la part du président de la République. Donc, on ne sait pas où ça va mener, mais actuellement il y a une crise donc pour le coronavirus conduit à une crise économique, une crise politique et une crise sociale. Pour revenir à la crise économique, un des indices de cette crise, c'est vraiment dire qu'il y a plus de la moitié des Brésiliens qui n'ont pas pu payer leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau. Ce chiffre s'élève à 91 millions de Brésiliens, ce qui conduit à une paralysie de l'économie. Donc s'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que ça se passe très mal.
Hello, ça va?
Ouais, moi, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que j'habite en Pologne, à Varsovie. Le confinement, ça s'est passé un petit peu différemment qu'en France. Moins de contrôle, plus de flicage. Il y a évidemment les voitures de police qui passent avec un haut-parleur où on te dit qu'il y a le coronavirus, qu'il faut rester chez soi, etc. etc. Mais vraiment, peu d'histoires d'amende, peu d'histoires aussi de délation. Il a commencé au milieu de la deuxième semaine de mars. Alors, on rencontre les mêmes problèmes un peu qu'en France, c'est-à-dire le manque de matériel pour les soignants, les problèmes pour obtenir des masques. Le système de santé en Pologne est quand même nettement moins performant qu'en France. Le gouvernement polonais a réagi quand même beaucoup plus rapidement qu'en France. Au départ, vraiment, il y a eu un espèce de sentiment de panique. Tout le monde s'est rué vers les supermarchés. Il y a eu pas mal de blagues à circuler en Pologne, notamment sur le papier toilette. Et je pense que ça a été un truc un peu mondial, mais c'est vrai que ça faisait vraiment écho aussi en Pologne. malheureusement un passé historique avec avant 89 le système régi par la Russie à l'époque, où il y avait des gens qui faisaient quotidiennement des queues interminables pour essayer d'avoir à manger, et bien souvent il y avait des pénuries de papier toilette. Alors en fait c'est assez marrant parce que le gouvernement en place qui est donc c'est le parti PiS, donc parti droit et justice, qui est quand même dans l'ensemble un gouvernement assez critiqué, là pour le coup le fait qu'il réagisse très vite pas eu de critiques vraiment. Après, bien sûr, les critiques sont arrivées par la suite avec justement le problème d'approvisionnement pour le matériel et notamment les masques. Et finalement, là, depuis lundi, maintenant, on peut sortir avec un masque. En fait, donc, il y a un peu des grosses discussions en ce moment parce que le gouvernement en place veut absolument que les élections aient lieu. Les élections présidentielles sont prévues là pour le 10 mai. Ils pensent qu'ils ont plus de chances là de surfer un peu sur la vague de on a pris des bonnes décisions, etc. Que les élections, du coup, allaient se faire par courrier. C'était des élections qui la participation devenait obligatoire. Comment finalement là créer un joli dossier de data avec tous les gens qui votent pas pour toi, quoi, tu vois, enfin. Et en fait ce projet de loi là concernant une interdiction de l'avortement en cas de grave malformation de l'embryon, plus aussi une restriction en termes d'éducation sexuelle envers les enfants. Et en fait, ils ont ressorti ça un peu de nulle part, avec un peu l'idée que ça allait être les élections bientôt. Et le parti en pouvoir, là, c'est un parti qui reçoit beaucoup de soutien de la part de l'Église. Donc, c'était aussi un peu régler cette histoire-là et puis faire un cadeau à l'Église avant les élections. Pour un peu le contexte au niveau de l'avortement, en Pologne, c'est un des pays qui a des règles qui sont vraiment déjà très, très limitées quant à l'accès à l'avortement, parce que jusqu'à présent, c'était donc avortement autorisé dans le cadre de viol, inceste, mise en danger de la santé de la mère ou, pour le coup, des graves malformations de l'embryon. Alors, en 2016, ils avaient déjà essayé et il y a eu, pour le coup, une grosse réaction de la part de la population. C'était justement le mouvement avec les parapluies. Finalement, ils sont revenus à la charge en 2018. Et là, en fait, il y a un collectif pro-life qui s'appelle Stop Avortement et qui avait récolté quelque chose comme 800 000 signatures pour une pétition. Il y a une loi qui existe comme ça en Pologne qui dit que quand tu as une pétition qui obtient plus de 100 000 signatures, tu peux la soumettre au Parlement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle, ben ça c'est un truc qui est là, tu vois, dans les tuyaux entre guillemets depuis des mois. Ben, ils ont décidé de le sortir là au moment du coronavirus parce qu'ils s'attendaient à ce que la population ne réagisse pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens étant confinés, ils pouvaient pas se rassembler pour manifester. Ils ont vraiment été extrêmement créatifs, les gentes, hein, pour vraiment manifester leur désaccord. Alors évidemment, on retrouve comme en France tout ce qui est affichage aux fenêtres, aux balcons, et que ce sont aussi retrouvés en ville. Et ils ont bloqué pendant plus de 45 minutes un des ronds-points centrales du centre de Varsovie, où en fait chaque personne était dans sa bagnole, à klaxonner et à ne pas bouger. Donc, voilà, la police est intervenue. Et là, à l'heure actuelle, il y a 45 personnes qui se sont pris quand même une amende. Là, il y a un collectif qui s'est constitué avec une récolte de fonds pour notamment financer les avocats qui vont défendre ces cas-là, etc., parce qu'il y a potentiellement une amende. Et il y a aussi, puisqu'on est autorisé quand même à faire la queue pour aller faire des courses dans les magasins alimentaires, en fait, les gens se sont mis à faire la queue devant les magasins, mais en tenant dans leurs mains des affiches, des des parapluies beaucoup, ou à peindre sur un pull ou un vêtement l'espèce d'éclair rouge qui est un peu le logo, le symbole un peu de toute cette lutte. Il y a eu aussi énormément de mails envoyés. Il y a eu aussi beaucoup de vidéos. Les réseaux sociaux, évidemment, ont été très, très, très actifs. Donc, finalement, c'est un projet de loi qui a été finalement à nouveau mis de côté. On l'a renvoyé en commission pour soi-disant en reparler, etc. En ce qui concerne les parlementaires, pour le coup, il y a beaucoup plus cette année de parlementaires qui se sont opposés au vote de cette loi par rapport à 4 ans.
D'accord. Et du coup, donc là,
ça, c'est quand
c'est...
même positif.
Ouais, et c'est... ils n'ont pas voté ou ils ont voté contre ? Excuse-moi, parce que j'ai peut-être.
Ils ont voté contre.
Ils ont voté contre. D'accord.
Ils ne se sont pas abstenus, ils ont voté contre. Et c'est quand même un sacré succès parce qu'en fait, la diète, elle est à majorité du parti au pouvoir, à savoir le PiS. Droit et justice. Donc ça veut dire que même des parlementaires qui appartiennent à ce parti-là ont voté contre quelque part l'initiative de ce gouvernement-là. Alors qu'en plus, le président Duda, lui, s'était exprimé en disant que si la loi passait, lui, il allait la signer aussi. C'est-à-dire que lui, en tant que président, après, il repassait derrière et il signait la loi. Donc ça veut dire que lui-même, publiquement, il avait soutenu cette future loi d'interdiction. Donc finalement, c'est quand même pour le coup assez positif que là, il y ait plus de 300 parlementaires qui aient voté contre. Mais voilà, c'est reparti en commission pour soi-disant, tu vois, retravailler le texte de loi. Donc c'est pas comme si c'était complètement fini. Si mmh. Voilà.
Yeah, Brown Zero will take a turn to see what's on the other side.
Brazilo, mi ngi doxantou dem ci benen rew pour xam li fa xew.
Brazilo, fu nek le meuna dem pour wax li fa xew.
Salut ma chère nièce. Alors ce qui concerne l'Omora dans cette période de confinement, c'était pas assez facile au début. J'avais la dépression, les nuits, l'obsession et tout ça. Comme tout le monde, quoi. Mais peu à peu, ça commence à se perdre. J'essaie de m'occuper de plein de choses, de la lecture, l'écriture, faire de nouveaux repas, quoi. C'est vrai que ça me manque de sortir, de voir les amis, de travailler au dehors de la maison. Et je me dis que ça va passer. Je me dis que ça va passer, Inch'Allah. Pour le ramadan, c'est pareil que les autres ramadans. Parce que moi, je n'ai pas sorti dans ce mois-là. Donc, je n'ai pas senti la différence. Alors, le confinement n'ajoute pas grand-chose au ramadan. Une seule chose, c'est qu'on ne se voit pas avec la famille. Parce qu'ici, au ramadan, on a l'habitude de se retrouver presque chaque jour, quoi.
C'est fini, le confit aussi.
Jusqu'à la prochaine fois, en tout cas pour l'instant, au revoir, à bientôt sur les ondes de Canal Sud, sur le site de Canal Sud, ailleurs ou peut-être même dans la rue.
Rencontrer des gens, c'est parfois effrayant. Rencontrer des gens, c'est tantôt surprenant. Rencontrer des gens, ça peut être amusant.